Radio Okapi.
À la une, une centaine de passagers et conducteurs des véhicules bloqués depuis environ deux semaines à la barrière de la Direction Générale des Recettes du Nord Kivu, au nord de Oicha. Ils attendent un convoi militaire qui n'arrive pas. Une autorité de Beni explique cette situation par le retard dans l'organisation du convoi militaire à partir de l'Ituri. Les ambassadeurs des Pays-Bas, du Canada et du Sénégal saluent le travail quotidien de la MONUSCO, notamment dans la protection des civils en Ituri. Ils l'ont dit au terme de leur visite de 5 jours à Bunia. Ces diplomates promettent de mener des plaidoyers pour accélérer le programme DDRCS, susceptible de ramener la stabilité dans l'Ituri. Et puis, début ce samedi au Kasaï oriental de la troisième phase de la campagne anti-Covid. Le coup d'envoi a eu lieu hier à Mbujimayi par le ministre provincial de la Santé. Pour en parler, nous recevons le docteur Bonheur Tshitekou, médecin chef de division provinciale de la Santé au Kasaï oriental. Madame, messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Une centaine de personnes, conducteurs des véhicules et passagers, vivent dans des conditions difficiles à la barrière de la Direction Générale des Recettes du Nord Kivu, DGRNK, de Kinkanda, au nord d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, selon la société civile locale qui cite les conducteurs des véhicules. Ces derniers, en partance pour Bunia, dans l'Ituri, et Kisangani, dans la Tshopo, sont bloqués à ce niveau depuis bientôt deux semaines, faute de convois militaires. André Kitenge nous en dit plus.
C'est depuis bientôt deux semaines que ces conducteurs de véhicules et leurs passagers en partance pour la plupart à Kisangani dans la province de la Tshopo sont bloqués à cet endroit bientôt deux semaines en attente d'un convoi militaire. Selon un membre de la société civile locale, parmi eux, des enfants et des femmes qui disent vivre difficilement dans des conditions sanitaires déplorables. La même source indique qu'ils passent nuit actuellement à la Belle Étoile, exposés à des intempéries et une éventuelle épidémie par manque d'eau potable et des installations hygiéniques adéquates. Contactés, l'administrateur assistant du territoire de Beni dit avoir été sur place pour se rendre compte de cette situation. Le colonel Marcel Kaloni explique que cette situation par le retard enregistré dans l'organisation du convoi militaire à partir de l'Ituri, instauré depuis plusieurs mois sur la route Luna-Komanda pour limiter les embuscades sur ce tronçon. Le porte-parole des FRDC à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo indique de sa part qu'il n'y a pas de problème avec le convoi militaire qui est organisé chaque mardi et vendredi de Komanda à Luna. Il en appelle à la patience des voyageurs car leur sécurité en dépend. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Par ailleurs, plusieurs dizaines de véhicules bloqués depuis plus d'une semaine après la prise de la commune rurale Rutshuru par la rébellion du M23 ont poursuivi hier leur chemin jusqu'à Goma. Les sources anonymes affirment que ce premier convoi a été escorté par les combattants du M23 jusqu'à Rugari. Sur le théâtre des opérations, c'est le statu quo. Un calme précaire règne sur toutes les lignes de front, nous dit Gabriel Ouamenia.
C'est vers 18h30 que le premier convoi de véhicules de transport en commun communément appelé Léo Léo, c'est-à-dire rapide, et ce achemina des marchandises bloquées depuis plus d'une semaine à Rutshuru Centre est arrivé à Goma. Les motards les plus courageux se sont joints à ce premier convoi de véhicules escorté par les combattants du M23 jusqu'à Rugari, précise nos sources. La plupart des voyageurs que nous avons vus à leur arrivée étaient visiblement épuisés par un long séjour indésirable, nous ont-ils dit hors micro. Pendant ce temps, les responsables du M23 multiplient les contacts avec les cadres locaux à Kiwanja, Rutshuru, Rugari et Kisigari. Hier vendredi, ils ont réuni à l'espace Cap Buturandi les cadres de base de la cité de Kiwanja avec comme objectif de choisir des nouveaux animateurs locaux et administratifs dans les agglomérations qu'ils contrôlent selon les sources concordantes dans les têtes de Rutshuru. Sur le théâtre des opérations, c'est le statu quo. Les M23 consolident ses positions à Mabenga sur la RN2 axe Goma-Beni-Butembo au nord, alors que l'armée maintient toujours sa base sur les fronts sud à Kibumba dans les territoires de Nyiragongo, environ 30 km au nord de Goma. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
province de la Tchopo, plus d'une centaine de jeunes membres issus des mouvements associatifs et citoyens sont descendus dans la rue hier à Kisangani. Ils dénoncent l'agression de la RDC par le Rwanda par cette marche de colère. Ils disent également soutenir les forces armées de la RDC qui combattent les rebelles du M23 au Nord Kivu. Dans un mémorandum adressé au président de la République, les manifestants recommandent notamment la mise en place d'un programme spécial de recrutement et de formation des jeunes au service militaire pour défendre le pays. L'un d'eux, Yedidia Mabela, explique le sens de cette marche au micro de Jacques Moukonkole.
Notre pays est en danger. Voilà pourquoi nous avons décidé de marcher aujourd'hui pour dire à la communauté nationale et internationale que les Congolais restent attachés à l'unité de notre pays, à l'intégrité territoriale de notre pays et que nous ne sommes pas prêts à céder ne serait-ce qu'une seule portion de notre pays à qui le veut. Nous avons un mémorandum que nous avons adressé au président Félix Tshisekedi. Dans ce mémorandum, il y a trois recommandations phares. La première, nous demandons au président de la République de déclarer la guerre au Rwanda. Et deuxièmement, nous lui avons demandé de mettre en place un programme spécial d'enrôlement et de formation de jeunes. Nous, on est prêts à prendre les armes pour défendre ce pays. C'est le devoir et le droit le plus sacré d'un citoyen, qui est celui de défendre l'intégrité territoriale lorsque le pays est mis en danger. Comme aujourd'hui, nous sommes mis en danger, nous courons le risque de subir une annexion rwandaise. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État de nous mettre en place un programme spécial de recrutement et de formation des jeunes. Nous sommes prêts à prendre les armes pour défendre ce pays.
La MONUSCO est une force très importante pour le maintien, la stabilité et les bons offices pour le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC et plus particulièrement dans la province de l'Ituri. Ces propos sont des ambassadeurs des Pays-Bas, du Canada ainsi que du Sénégal. Au terme de leur visite de 5 jours à Bounia, chef-lieu de l'Ituri, ces diplomates saluent le travail que font au quotidien les casques bleus de la MONUSCO, notamment dans le cadre de la protection des civils, particulièrement ceux victimes des conflits armés dans cette province. L'ambassadeur du Canada, lui, s'est dit impressionné par le travail qu'abattent les organisations humanitaires pour soulager la souffrance des victimes de ces atrocités. Ces diplomates promettent de mener des plaidoyers pour accélérer le programme DDRCS, susceptible de ramener la stabilité dans cette province confrontée à l'activisme des groupes armés. Benoît Pierre Laramé et Jolk Opwal, ambassadeurs des Pays-Bas et du Canada, s'expriment tour à tour au micro de Ezekiel Mousalia.
Souvent, on critique le MONUSCO, mais le MONUSCO, selon nous, est une force importante pour accompagner, pas seulement pour la protection des civils qui est important, mais aussi d'offrir les bons offices pour arriver dans les négociations, d'arriver à la accords, d'arriver à le désarmement. Le message très fort est ce programme pour la démobilisation et réinsertion communautaire, le PDDRCS, ça doit commencer son mise en œuvre.
Faut reconnaître tout ce que la MONUSCO fait pour la population. Et j'ai été heureux ce matin de pouvoir constater que l'aide humanitaire pouvait se rendre aux populations, à part certains territoires qui sont vraiment trop difficiles pour l'accès. Mais en majorité, cette aide humanitaire se rend aux populations, ce qui vient au moins atténuer de manière temporaire leur souffrance.
Province du Tanganyika, retour au calme depuis hier dans les villages se trouvant dans les hauts plateaux de Batumba, territoire de Kalemie. Des sources sur place indiquent que les Maïmaï du chef Liwa ont fait incursion mercredi et jeudi dernier dans ces villages. D'après des témoins, le chef milicien Liwa et ses hommes ont exigé de l'argent et du bétail aux villageois. Récit des faits avec Paulin Munanga.
D'après l'administrateur du territoire de Kalemie, Bernard Bukalanganya, mercredi dernier, le chef Maïmaï, connu sous le nom de Kavunga Liwa, a envoyé ses émissaires dans des villages se trouvant dans les hauts plateaux de Batumba. Objectif, exiger la population de préparer pour le chef milicien Liwa 3 vaches, des moutons et des chèvres, et même une femme. L'administrateur du territoire de Kalemie ajoute que ces miliciens ont précisé que tout celui qui n'est pas éleveur devrait donner une somme de 15 000 francs congolais. Le jeudi, Liwa est arrivé dans les villages avec ses hommes. Cependant, il a fait face à une résistance de la population qui a refusé d'honorer ses exigences. En représailles, les Maïmaï ont tiré et c'était la débandade, rapporte des témoins. Ils ont incendié quelques cases et tenté de prendre en otage les chefs des villages Kakose avant de se retirer. Une partie de la population a fui le village vers la cité de Kabimba et dans d'autres petits villages environnants. L'administrateur du territoire de Kalemie rassure que les FRDC ont été déployés dans la zone pour restaurer la sécurité. Kalemie, Polemunanga, Radio Okapi.
Direction le Kasaï oriental, je vous l'ai dit dans le titre, début aujourd'hui de la troisième phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19. La cérémonie de lancement a été présidée hier à Mbujimayi par le ministre provincial de la Santé en présence des partenaires techniques et financiers dont l'UNICEF et Save the Children. Près de 511 790 personnes âgées de 18 ans et plus sont attendues à cette troisième phase de campagne. Le médecin chef de division provinciale de la Santé appelle les personnes ciblées ainsi que celles non encore vaccinés à s'y rendre dans les centres de santé les plus proches. Docteur Bonheur Tchitekou est au micro de Esther Ndalafina.
La province du Kasaï oriental dispose de plusieurs doses de vaccins pour bien mener cette campagne. Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac et Moderna pour vacciner la cible attendue. Toute personne est libre de se faire vacciner par les types de vaccins à son choix. Ces vaccins sont disponibles dans toutes les 19 zones de santé de la province du Kasaï oriental et dans les 317 aires de santé qui constituent les sites de vaccination qui vont fonctionner pendant 7 jours. Cette vaccination débute par les zones de santé de la ville de Mbujimayi qui sont au nombre de 10 et cela à partir de ce samedi, pendant que les populations des zones de santé de nos 5 territoires auront accès à la vaccination d'ici la fin de la semaine prochaine. C'est ici pour nous l'occasion de remercier nos partenaires techniques et financiers qui ont contribué à l'organisation de cette campagne de vaccination et de manière spéciale à l'UNICEF. Gavi, OMS, Save the Children et Prosani USAID.
Province du Kwilu, pendant ce temps, une délégation du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS, partie de Kinshasa, séjourne à Bandunduville. Objectif, réaliser une évaluation à mi-parcours de son plan stratégique 2020-2023 afin de mieux préparer et améliorer celui de 2023-2026. Cela dans le but de lutter contre la maladie à VIH-Sida. Dans un entretien avec Radio Kapi hier, au siège du PNMLS à Bandundu, Déborah Balelia, membre de la délégation, a indiqué que cette évaluation d'au moins une semaine s'est faite notamment auprès des autorités étatiques et auprès des personnes clés pour récolter les informations nécessaires liées au VIH-Sida. Déborah Balelia est au micro de Irène Boma.
D'une manière générale, l'objectif de la mission, c'est de pouvoir contribuer à l'amélioration des activités, tout ce qui est lié à la riposte contre le VIH-Sida dans la ville de Bandundu. Il y a des activités qui sont liées directement avec les populations clés, les populations cibles, les adolescents et les personnes vivant avec le VIH-Sida, les professionnels du sexe et toute cette catégorie de personnes où nous récoltons les informations clés qui peuvent nous permettre de pouvoir bien planifier les programmes prochains. C'est d'abord de savoir s'ils ont le service parce que le VIH-Sida, c'est une maladie qui conduit à la mort. Alors, la première des choses, c'est d'abord de prévenir la maladie. Quelles sont les mesures qui sont prises ou qui doivent être prises pour prévenir la maladie? Et comment est-ce qu'on doit accompagner les personnes qui sont déjà atteintes? Est-ce qu'ils ont les médicaments, les produits qu'il faut? Est-ce qu'il y a les matériels qu'il faut? C'est ce qui est beaucoup plus important.
Autre nouvelle, nouveau cadre organique qui permettra enfin la maîtrise des effectifs, la prise en charge des agents et la régularisation de la situation des nouvelles unités au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire. Sa signature est intervenue hier entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et le ministre d'État à l'Aménagement du Territoire, Guy Loando. Au terme de cette innovation, désormais, le secrétariat général à l'Aménagement du Territoire compte 11 directions et 698 unités au niveau central. C'est l'aboutissement des travaux abattus par des experts de ces deux ministères pendant plusieurs semaines. On écoute les explications du ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, est au micro de Jacques-Yves Molima.
Quand nous sommes arrivés, après avoir fait l'état des lieux, ce qui est de la situation des agents et fonctionnaires dans notre administration, nous avons constaté qu'il y avait l'absence d'un outil extrêmement important qui permet la maîtrise des effectifs et permet une prise en charge réelle de nos agents et cadres par l'État congolais. Presque 80% des agents de l'administration du territoire n'étaient pas payés. Certains venaient même à pied, ils n'avaient rien. Ils avaient pris l'engagement. Voilà qu'aujourd'hui, cela a été rendu possible par un travail qui a été abattu par la commission mixte qui permet de régler le problème de nouvelles unités et le problème de ce qu'on appelle NP, les non payés au sein de l'administration. Et avec cet outil, nous allons avoir clairement la catégorisation des emplois au sein de l'administration. Et ça ouvre aussi la voie à ce que s'il n'y a pas de qualification dont nous avons besoin au regard des directions qui ont été créées, pour pouvoir procéder, pourquoi pas, au recrutement sur concours, sur titre, selon les cas.
Actualité internationale.
Après 40 ans d'un règne sans partage à la tête du Cameroun, Paul Biya sera célébré par ses partisans demain dimanche à 89 ans. La question de sa succession, bien que taboue au sommet de l'État, est omniprésente dans le débat public. Parmi les candidats à sa succession, Franck Biya, le fils du président, et Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, sont régulièrement cités. Pour ce 40e anniversaire, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, créé par Paul Biya en 1985, promet des festivités.
L'invité.
Il nous vient du Kasaï oriental. Début ce samedi de la troisième phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19. La cérémonie de lancement a été présidée hier par le ministre provincial de la Santé. À cet effet, le médecin chef de division provinciale de la Santé appelle les personnes âgées de plus de 18 ans ainsi que celles non encore vaccinées à se rendre dans les centres de santé les plus proches. Docteur Bonheur Tshitekou, notre invité, s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour docteur Bonheur Tshitekou. Le ministre provincial de la Santé vient de lancer la campagne de vaccination contre le Covid-19. De quelle phase s'agit-il?
Merci beaucoup madame. Nous sommes à la troisième phase de notre campagne. Il faut signaler que nous avions eu à consommer 733 doses d'AstraZeneca suivies de 479. Et après cela, nous avions organisé la première phase où nous avions eu à réaliser 111% de couverture vaccinale pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Nous avions organisé la deuxième phase au mois de mai où nous avions réalisé une couverture vaccinale de 120%. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième phase qui est lancée aujourd'hui par les ministres provinciaux en charge de la santé publique, hygiène et prévention, les représentants spéciaux du gouverneur des provinces.
Qui sont concernés par cette phase?
La phase est concernée par toute personne âgée de 18 ans et plus. Et ceux-là qui n'ont pas bénéficié qu'une dose de vaccin. Et ceux-là qui ont bénéficié la première dose de Moderna, Sinovac et Pfizer, AstraZeneca, en dehors de Johnson-Johnson. Donc toute personne qui a déjà reçu la souche Johnson-Johnson est exempte de cette vaccination.
Combien de personnes sont attendu à cette troisième phase de vaccination contre le Covid?
Oui, nous nous attendons à vacciner plus de 517 000 personnes âgées de 18 ans et plus. Mais il faut signaler que nous y allons par palier, vu que nous n'avons pas suffisamment de vaccins dans la province. Nous allons commencer avec les 10 zones de santé de la ville pour une cible attendue de 311 000 personnes qui doivent être vaccinées. Nous pensons qu'avant la fin de la semaine prochaine, nous pourrons prendre les 9 zones de santé rurale qui pourront aussi rejoindre les 10 zones de santé urbaine.
Quelle sera la stratégie?
La stratégie qui est utilisée, c'est la stratégie fixe et on va aussi coupler à la stratégie avancée. Donc, toutes nos 317 aires de santé constituent les sites de vaccination au niveau de nos 317 centres de santé pilotes. Lorsque, au niveau des centres de santé pilotes, la vaccination est organisée, les équipes pourront se déplacer vers les sites avancés pour arriver à couvrir toute la population nécessaire.
Quels sont les vaccins disponibles?
Oui, présentement, nous avons deux souches. Nous avons Johnson Johnson et aussi Sinovac. Mais nous attendons la souche Pfizer qui va nous arriver incessamment. Malheureusement, nous n'avons pas Moderna. Donc, il faut dire que nous avons trois souches. Johnson Johnson, Sinovac et Pfizer qui nous arrivent incessamment.
Il y a eu la fois dernière le problème de manque de cartes de vaccination. Cette fois-ci, est-ce que ce problème est réglé?
Oui, la question n'est plus à l'ordre du jour, étant donné que même lors de la deuxième phase, les cartes ne posaient plus de problème. Nous avions eu cette difficulté-là, certes, à la première phase, mais à la deuxième phase, nous avions eu à corriger cela. Et aujourd'hui, là, pour la troisième phase, tous les outils sont disponibles.
Nous venons d'apprendre aussi que les vaccinateurs n'étaient pas payés pour les deux phases précédentes. Et comment allez-vous vous y prendre cette fois-ci?
C'est cette difficulté qui a fait que nous puissions commencer cette troisième phase avec beaucoup de retard. Cela était prévu pour le mois de juin, mais vu que les prestataires n'étaient pas payés, ça a joué négativement sur le début de la troisième phase. Mais néanmoins, presque tous les prestataires sont payés pour la deuxième phase. La première phase, nous avons encore des petits litiges à gauche, à droite. La deuxième phase, on a payé presque tout le monde, sauf des erreurs des noms qui vont être corrigées pour une dizaine de prestataires et la question va être réglée.
Quel est le message que vous lancez à la population?
Oui, nous demandons à toute la population du Kassa oriental. Nous avons déjà des bons résultats avec les deux phases réalisées récemment, au mois de janvier, février, au mois de mai. Nous comptons maintenant plus de 13 semaines sans enregistrer ou notifier aucun cas. Ce qui fait que les résultats sont bons. Nous demandons, nous lançons l'appel à notre population de se faire vacciner. Cela empêcherait la persistance de la maladie dans notre province et cela ferait aussi que toute la population puisse se protéger contre cette maladie.
Merci beaucoup, docteur Bonheur Tchétékou.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Le médecin chef de division provinciale de la santé au Kassai oriental s'entretenait avec Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal, supervisé par Noéla Luzitukabambi, à la mise en onde Dieudonné Nyangasa et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci d'avoir été des nôtres.